Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 114e émission d'À toi les étoiles, qui a pour thème ce soir les premières rencontres franciliennes de l'espace et la plume. Cette émission n'a pas lieu en direct, exceptionnellement ce soir, puisqu'elle a été enregistrée à l'extérieur des studios, bien que nous ne sommes pas en été, puisque vous savez que chaque été je vous propose la formule été d'À toi les étoiles, où on s'offre une balade en dehors des studios. Cette émission a été enregistrée le 30 mars 2014 à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport d'Orly, où avaient lieu les premières rencontres franciliennes de l'espace et la plume. Et je suis en compagnie de Pierre-François Mouriot, président de l'association Histoire d'Espace, qui est un des organisateurs de ces premières rencontres franciliennes de l'espace et de la plume. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est cette manifestation et comment est né ce projet ?
Alors, l'espace et la plume, c'est, comme vous l'avez dit, la première édition. Donc, c'est une année, on va dire, expérimentale. L'objectif, au départ, était de rassembler des auteurs qui ont écrit sur l'espace. Alors, ça peut être aussi bien des historiens que des techniciens, des histoires personnelles, des souvenirs ou de la science-fiction, du roman. Voilà, on a essayé de varier les genres. Et en tout cas, pour l'instant, on commence avec une rencontre francilienne et avec des auteurs franciliens, les seuls auteurs hors Île-de-France étant Jean-Luc Chrétien qui vient de Bretagne et une romancière qui vient de Bordeaux. L'idée est née lors d'un précédent rassemblement d'auteurs à Toulouse où nous étions quatre auteurs spatiaux et où l'idée autour d'un repas est née de se retrouver sur un événement un peu plus spatial, un peu plus à nous on va dire, et la Maison de l'Environnement s'est tout de suite montré très intéressé pour nous accueillir et donc on a organisé cette manifestation en 4-5 mois avec aussi l'idée d'en faire un événement un peu plus grand public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des auteurs, il n'y a pas que des séances de dédicaces, il y a aussi toute une série d'animations, des conférences, des ateliers pour les enfants, des démonstrations diverses et variées.
Beaucoup d'auteurs, on peut en citer quelques-uns ?
Alors oui, on répondu présent une trentaine d'auteurs, on était ravis. Alors après, bon, les aléas font qu'il y a quelques absents, mais parlons effectivement de ceux qui sont présents. On a deux invités de marque, hein. On a le parrain de la manifestation que j'ai cité, qui est l'astronaute Jean-Luc Chrétien, qui a écrit plusieurs livres sur ses différents vols, donc qui est venu exprès pour nous aujourd'hui de Bretagne. On a le professeur Jacques Blamont, qui est le premier directeur scientifique du CNES, qui vient de rédiger une partie de ses mémoires, qui est notre invité d'honneur. Et puis après, on a toute une série d'auteurs. Alors, en citer certains et pas d'autres, je ne voudrais pas faire de jaloux, mais j'aperçois devant moi Guy Pignolet, qui avait fait un livre il y a plus d'une vingtaine d'années de prospectives sur l'avenir de l'espace. Il y a M. Fellouz et Mme Amar Israël du CNES, qui ont fait un livre plus politique. Il y a Gilles Davidovitch, qui est un habitué, qui est plus sur la partie, on va dire, astronomie. On a même des dessinateurs. On a le nouveau dessinateur de Bogdani, Francis Vinis. On a Manchu, qui est un spécialiste de Mars. Voilà. Il y a mon co-auteur et moi-même pour le livre sur Ananov. Il y a Jean-François Pellerin, qui est associé à cette manifestation. Et Franck Lehaut, qui ont chacun aussi amené leurs ouvrages. Voilà, on est plus d'une vingtaine aujourd'hui. Et voilà, c'est une première expérience. On en tirera le bilan. Et en fonction de ce bilan, on travaillera sur une seconde édition qui aura lieu peut-être pas en 2015, peut-être tous les deux ans, peut-être que la prochaine aura lieu en 2016, mais voilà, vous aurez l'information très rapidement quand ce sera décidé.
Concernant les conférences, on peut aussi parler un peu des thèmes qui ont été abordés ?
Alors l'idée, c'était de mettre en valeur aussi certains auteurs. Et puis, on avait choisi un thème un peu pour commencer cette édition autour des rencontres. Et on a choisi Jules Verne. On a proposé trois petites conférences et puis ensuite un débat. Alors, les conférences sont dans l'ordre, une sur la science-fiction et l'espace dans la littérature, puisqu'on est d'abord un rassemblement littéraire. Ensuite, il y a l'association Planète Mars qui va présenter, il y a un livre, Embarquement pour Mars qui est sorti l'année dernière et qui est à l'honneur avec pas mal d'auteurs présents. Donc Alain Souchier qui a participé, qui est président de l'association, va présenter les projets d'exploration martienne. Et ensuite il y a Franck Léo, un des co-organisateurs, qui va présenter le tourisme spatial puisqu'il est très associé au vol touristique sur l'Airbus A300G. Et puis après il y a un grand débat animé par Gilles Davidovitch en présence de Jean-Luc Chrétien mais aussi de l'astrophysicien André Brahi et puis un certain nombre d'intervenants qui connaissent bien les questions soit d'écriture de livres, soit de médiation vers le grand public, qui vont débattre sur comment mieux parler d'espace, comment le livre, qui est un peu en crise, peut continuer à parler d'espace, comment encourager les auteurs, mieux vendre des livres sur l'espace, comment articuler tout ça avec l'émergence d'Internet. Enfin, voilà, c'est un débat très ouvert sur la manière de parler d'espace ou écrire sur l'espace au XXIe siècle.
Eh bien, Pierre-François Mourieux, je vous remercie. Moi, je vais continuer mon exploration parmi cette maison de l'environnement. On se retrouve en fin d'émission pour faire une conclusion de ces premières rencontres.
Avec plaisir. Bon après-midi et puis à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et nous commençons ce tour d'horizon des auteurs avec le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, qui est là aujourd'hui et qui présente plusieurs ouvrages. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous présentez comme ouvrage ?
Alors les deux grands projets phares, c'est mes deux livres principaux des deux dernières années, à savoir Aventure dans l'espace, préfacé par Patrick Baudry, que j'avais déjà cité lors d'émissions, qui retrace l'histoire de l'exploration spatiale, de la guerre froide, enfin même un peu avant, depuis le V2 allemand, la guerre froide, la course à la Lune et jusqu'à l'arrivée sur Mars, préfacé par Patrick Baudry. Et le deuxième livre est sorti il y a un peu moins d'un an, c'était en 2013. C'est un collectif d'auteurs que j'ai dirigé avec l'association Planète Mars, qui est la Mars Society en France. Et nous sommes une douzaine et on a tordu un peu le cou aux idées reçues et on a voulu mettre noir sur blanc dans un livre de 200 pages tout ce qu'il faut penser un jour pour débarquer sur Mars, que ce soit au niveau médical, psychologique, les technologies de propulsion, la santé. Donc ça a permis de faire le point un peu de ce sujet et de montrer que c'est plus près au niveau échéance qu'on ne l'imagine. On envisage dans les années 2035 l'arrivée de l'homme sur Mars. Et pour l'actualité, il est préfacé par Thomas Pesquet, qui est le jeune astronaute français qui a son ticket officiel. Il était à l'ESA astronaute depuis 2009 avec 5 autres candidats qui avaient leur siège Soyouz, mais lui maintenant c'est le petit dernier, mais il a son siège pour décembre 2016 et il rentrera en mai 2017 pour une mission de 6 mois. Il a un très beau CV, il parle d'ailleurs le chinois, il parle 6 langues dont le chinois et le russe.
Et vous avez aussi d'autres livres comme 2025, Embarquement pour l'Europe.
Ça c'est un collègue qui m'a laissé quelques livres qui était là en début d'après-midi, qui peut-être un jour viendra dans une émission. C'est Diego Gérez qui est ingénieur chez Dassault, retraité, et qui a sorti un livre sur l'exploration habitée, où carrément on fait un grand bond là dans le système solaire pour aller visiter une lune glacée de Jupiter. C'est Europe en 2025. Où il imagine des scénarios et il a essayé de construire toute une vision d'exploration planétaire du domaine jupitérien, où là on est quand même à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre. Pendant très longtemps on parlait du retour sur la Lune, d'aller sur Mars et Titan, satellite de Saturne. Et là on a oublié, il y a Jupiter et il y a notamment cette lune glacée de Jupiter où il y a des scénarios, il y a des gens qui travaillent avec des systèmes de propulsion avancés où on envisagerait d'aller envoyer des expéditions vers cet environnement du système solaire.
Puis on retrouve aussi vos précédents ouvrages, il y a le guide des combinaisons spatiales.
Oui, le guide des combinaisons spatiales que j'avais sorti il y a, ça fait presque 8 ans, qui est le seul livre français préfacé par l'astronaute Jean-Jacques Favier qui était passé dans l'émission À toi les étoiles. C'est un livre bilan qui fait le point un petit peu de toute la technologie des scaphandres, des combinaisons de vol, de tout ce qu'il faut utiliser dans ce monde hostile qui est le vide spatial. Aller marcher sur la Lune, sur Mars, il faut des protections, donc il faut pouvoir se protéger. Donc j'ai regroupé tous les grands constructeurs et toutes les équipements et combinaisons dans un seul livre qui s'appelle « Le guide des combinaisons spatiales et du vol habité ».
Tous ces livres sont toujours disponibles ?
Toujours disponibles, que ce soit Fnac, Amazon, sur Internet, Price Minister, tous les grands réseaux. Et j'ai un blog aventuredanslespace.overblog.com où dedans il y a l'actualité. D'ailleurs, à partir du site d'Atoiles les Étoiles, on peut aller sur le blog et on a toutes les actualités dédicaces et les nouveaux ouvrages en préparation.
Tout à fait. Bien, merci beaucoup Jean-François Perrin.
C'est moi qui vous remercie.
Et moi, je vais continuer donc ma petite balade parmi les auteurs pour découvrir d'autres livres. On poursuit notre petit voyage parmi les auteurs. Et puis, il y a aussi des dessinateurs. Je suis avec Manchu qui va se présenter.
Je suis Manchu. Je m'appelle, ça c'est un pseudo, je m'appelle Philippe Boucher.
Vous faites des dessins par rapport à l'astronomie, l'astronautique ?
Alors, j'ai travaillé pour assez longtemps, il y a quelques années, pour Ciel et Espace, où j'illustrais des articles soit sur l'astronautique, soit sur l'astronomie. Je fais partie de l'association Planète Mars, donc je leur réalise de temps en temps des posters. Et puis, je fais essentiellement, sinon, de la science-fiction.
Est-ce qu'on peut nommer quelques ouvrages ?
Alors, j'ai deux artbooks qui sont sortis aux éditions Delcourt. Le premier s'appelle Science Fiction et le deuxième Starship. Plus un sketchbook qui est sorti chez Comics Bureau.
Sketchbook, on explique aux auditeurs en quoi ça consiste ?
C'est une sorte de rassemblement de croquis, d'études, tout ce qui sert à faire l'illustration définitive, toutes les recherches. Donc c'est un petit bouquin, c'est un bouquin de croquis quoi en fait.
Vous êtes passionné pour l'astronomie et l'astronautique. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'être dessinateur dans ce domaine ?
C'est la grande question. Je pense que ce qui a déterminé le fait que je baigne dans la science-fiction, l'astronomie et l'astronautique en permanence, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai vu en 68 à la sortie. Donc j'étais tout môme, j'ai rien compris du tout, mais ça m'a fait un grand flash, quoi, un flash visuel énorme. Et puis l'année suivante, le débarquement des Américains sur la Lune. Donc ça, je pense que ça a déterminé pas mal l'orientation.
Et aujourd'hui, donc, on peut encore retrouver vos dessins, toujours dans Ciel et Espace ?
Non, Ciel et Espace, ça fait pas mal de temps que j'ai pas travaillé, parce que j'ai un carnet de commandes qui est assez important et... Et si l'espace, il faut travailler assez vite dans le temps, enfin c'est des délais d'un mois en fait, pour une parution mensuelle. Donc ça devient difficile de travailler pour les magazines. Par contre, je fais toujours des couvertures de science-fiction, de romans de science-fiction, chez différents éditeurs. Et puis quelques couvertures d'albums de bande dessinée chez Delcourt aussi.
Comment vous vient l'inspiration ? D'après, vous aviez parlé tout à l'heure de 2001, l'Odyssée de l'espace, les hommes sur la Lune aussi. Est-ce que vous avez l'inspiration par rapport à des faits réels ou...
Je me tiens au courant de ce qui se passe en astronautique, en astronomie. Donc ça, c'est des sources d'inspiration perpétuelles et puis renouvelées surtout en permanence. Et puis pour les couvertures de romans, il y a le manuscrit en fait, hein, qui donne beaucoup de choses visuelles. Quoi. Les auteurs de science-fiction rarement détaillent très précisément leurs textes, au niveau des images, au niveau des paysages, mais font passer certaines choses très bien, donc la source d'inspiration elle est là. Quoi.
Et comment ça se passe ? Alors vous faites un premier jet, vous présentez à l'auteur, il est...
Alors en général, c'est pas à l'auteur, c'est à l'éditeur que je présente des projets. Alors le nombre varie en fonction de l'aspiration. Et puis avec le directeur de collection, je choisis le visuel qui va convenir, d'un commun accord. Bon, en général, il n'y a pas trop de désaccords, on tombe à peu près OK pour une image particulière.
Eh bien, Manchu, merci beaucoup. Donc, il montre aussi un peu le fait qu'il n'y a pas seulement des auteurs en matière d'écrit, mais aussi des dessinateurs dans ce milieu. Merci beaucoup.
Merci.
Nous poursuivons maintenant avec Marie-Michèle Martinet, qui a écrit l'ouvrage Monsieur Gagarine, Yuri Gagarine, hein, on explique aux auditeurs, c'est le premier homme dans l'espace. Bonjour tout d'abord, et pourquoi ce livre ?
Pourquoi ce livre ? En fait, pour retrouver le point de départ de ce livre, il faut que je commence déjà par remonter le temps de mon propre temps et de ma propre enfance, puisque tout simplement, Gagarine a été mon héros d'enfance. Et je dirais que le premier point de départ de ce livre, ça a été ça. Ça a été au moment du cinquantenaire, donc de son grand voyage d'avril 1961 dans le cosmos, de revenir moi-même sur mon passé et de retrouver ce temps où j'étais toute petite fille et où j'étais complètement fan de Gagarine, par l'intermédiaire aussi de mon père, qui était donc passionné d'espace, qui avait rêvé d'être pilote d'avion. Et donc, entre mon père et moi, s'était créée une histoire forte autour du personnage de Gagarine. Puis à partir de là, j'ai fait des recherches, j'ai recherché toutes les informations qui pouvaient m'intéresser sur la biographie de Gagarine, et j'ai bâti ce qui est tout de même, je le précise, un roman. Hein. Je ne suis pas une biographe de Gagarine.
De quoi parle ce livre ?
Bien, un petit peu de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire d'une part, je me suis attachée à reconstituer assez précisément, et il n'était pas question d'inventer une autre aventure à Gagarine que celle qui a été la sienne, mais effectivement d'essayer aussi d'évoquer à travers donc des souvenirs personnels ces années 60 qui paraissent déjà un petit peu lointaines, surtout à ceux qui ne les ont pas vécues, et d'essayer de reconstituer un petit peu aussi cette ambiance de la guerre froide, de l'après-guerre, et donc des débuts de ces exploits de l'aventure spatiale qui ne faisaient que commencer, puis après qui vont se prolonger avec l'entrée en piste des Américains et la compétition féroce que l'Est et l'Ouest vont se livrer, cette guerre, hein, on peut dire qu'il s'agissait d'une guerre, autour de la conquête de l'espace.
Vous êtes un auteur, vous faites plusieurs livres ou c'est votre premier livre ?
Je dirais qu'en fait, pour expliquer peut-être aussi la démarche qui a été la mienne sur ce livre, moi, ma formation de départ, c'est le journalisme. Donc, je suis journaliste, je pratique ce métier depuis plus de 25 ans. Et je dirais que sur ce livre-là, je me suis sentie à la fois journaliste, puisqu'il s'agissait de faire des recherches et de rendre compte d'événements qui ont été, donc, que j'ai retrouvés, ou bien dans des livres de biographes, ou bien dans des livres sur la conquête spatiale, sur Internet, j'ai retrouvé des vidéos aussi. Donc ça, c'était vraiment un travail d'enquête. Et puis, effectivement, en parallèle de mon métier de journaliste, que ce soit pour la télévision, la radio ou la presse écrite, depuis maintenant plus de 20 ans, j'écris de la fiction. Donc j'ai écrit des romans qui sont eux de pure fiction, j'ai écrit des nouvelles, j'ai également fait de la traduction d'auteurs de littérature turque en français, puisque je parle le turc. Et donc maintenant je me ressens comme écrivain de fiction, mais j'ai gardé aussi donc cette pratique du journalisme que j'ai essayé donc du coup d'utiliser l'un et l'autre dans le livre, c'est-à-dire à la fois donc je retranscris des événements que peut-être d'ailleurs les lecteurs vont retrouver parce qu'ils les ont déjà lus ou entendus dans des émissions sur Gagarine ou sur les Russes dans l'espace, mais je me suis donné des libertés de romancière, par exemple de rentrer un petit peu dans la tête de mon héros, de penser un peu à sa place les événements, ou bien de reconstruire des conversations intimes qu'il a pu avoir avec sa mère à certains moments quand il commence un petit peu à se poser des questions sur ce qui se passe. Là, je parle, par exemple, je pense aux années 64-65 quand il y a divers accidents qui vont un peu endeuiller l'équipe russe, ou bien des conversations avec sa femme, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la part purement fictionnelle, puisqu'évidemment, ça, je rentre dans l'intimité de Youri Gagarin, et c'est le privilège du romancier, bien sûr.
Ce livre est appelé à avoir une suite ou...
Je ne pense pas, a priori, parce qu'en fait, il commence donc à la veille, on va dire, du départ de Youri Gagarin à bord de son fameux Vostok pour le cosmos. Et il s'achève après sa mort, puisque donc j'évoque, je dirais, l'après-exploit, qui va être d'ailleurs assez douloureuse, cette période, pour lui, puisque d'une part, il va devenir une sorte de VRP de luxe du Kremlin, et donc il n'est plus du tout question de l'envoyer prendre le moindre risque dans l'espace. Donc il est très frustré. Et il va connaître le destin d'ailleurs de nombreux astronautes ou cosmonautes, c'est-à-dire l'après, je dirais, la gueule de bois post-héroïque. Peut-être un peu trop d'alcool, beaucoup de déceptions de ne plus être sélectionné pour les missions qui vont suivre. Et puis donc cet accident fatal qui survient en 67. Donc un destin quand même d'étoile filante. Et je me vois mal reprendre un récit le concernant, parce qu'il me semble que ça n'est pas, enfin, c'est pas ma mission, quoi, d'écrire éternellement sur Gagarine. Mais je tenais à écrire ce roman, ça c'est sûr. Et je ne regrette pas de l'avoir fait.
Si on veut justement se procurer le roman, comment fait-on ?
Bah, écoutez, c'est un roman qui a été publié par les éditions Gallimard. Donc on peut tout simplement aller en librairie et le demander, hein, sachant donc que c'est un livre publié par cet éditeur. Il y a également possibilité, via toujours les éditions Gallimard, de l'acheter donc en version en ligne, immatérielle. Voilà, quoi, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés pour le trouver.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Michèle Martinet.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et on va s'interrompre le temps d'une pause musicale. On se retrouve juste après, toujours ici à la Maison de l'Environnement de l'aéroport d'Orly, pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite. IDFM Radio Anguin, c'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Et je vous rappelle que le thème de cette émission ce soir est les premières rencontres franciliennes de l'espace et de la plume, et que l'émission que vous écoutez a été enregistrée le 30 mars 2014 depuis la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport d'Orly, où se tenaient ces rencontres. On poursuit le tour des auteurs et on arrive à Alain Souchier, qui est président de Planète Mars, qui est aussi organisateur de cette première édition de L'Espace et la Plume. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'on voit là ? Il y a donc une représentation de base martienne.
Oui, nous présentons deux maquettes de base martienne, une maquette de base de type première exploration, première arrivée sur Mars, équipage de 4 à 6 hommes, un module de 8 mètres de diamètre. Et puis nous présentons aussi, plus futuriste, une base pour 80 personnes. Là, l'idée, c'est qu'un jour, après les premières explorations, on installera sur Mars des bases qui peuvent ressembler à ce qu'on a aujourd'hui dans l'Antarctique, des bases scientifiques. Puis on a aussi quelques panneaux qui illustrent les simulations qui sont faites sur Terre par différents organismes, la Mars Society américaine, le Forum spatial autrichien en Autriche, et l'association Planète Mars a participé à plusieurs de ces simulations. Et maintenant, nous avons même deux scaphandres de simulation qui sont exposés sur le stand et qui ont servi, l'un d'eux a servi récemment, le 14 mars, à une simulation au lieu dit les falaises des Vaches Noires en Normandie. Et nous sommes encore en train de monter une vidéo sur cette simulation qui devrait bientôt être disponible.
Disponible sur YouTube ou...
YouTube et Dailymotion probablement, et on mettra l'information sur notre site internet planète-mars.com.
Il y a aussi l'ouvrage dont nous a parlé tout à l'heure le parrain Jean-François Pellerin, donc Embarquement pour Mars.
Effectivement, comme c'est un salon du livre quand même, nous avons le livre Embarquement pour Mars, qui a été écrit par la plupart des membres du conseil d'administration de l'association Planète Mars, qui est sorti il y a un an, et qui en fait détaille les principales difficultés, les principaux points clés d'un voyage vers Mars, ce qu'il faudra arriver à maîtriser pour pouvoir faire un voyage vers Mars. Et on a aussi le livre Cap sur Mars, qui est plus ancien, de Robert Zubrin, le patron de la Mars Society américaine, qui est le livre dans lequel il a expliqué un scénario de mission martienne qui est toujours très intéressant. L'idée novatrice à cette époque, c'était de fabriquer le carburant de retour sur la planète Mars, à partir d'un petit peu d'hydrogène emmené de la Terre. Et avec ça, on fait de l'oxygène et du méthane. Et on a donc le carburant pour faire le voyage de retour.
Et pour se procurer ces livres, alors comment fait-on ?
On peut les trouver via Internet. En faisant le titre du livre et l'éditeur, on le trouve. Ou il faut venir l'acheter ici, en ce moment.
Merci beaucoup. Nous poursuivons notre tour parmi tous les auteurs. Et j'arrive auprès de Pierre Ballan. Monsieur Ballan, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler de votre ouvrage ?
Alors, c'est un ouvrage qui est à la croisée de trois sujets. L'espace, évidemment, mais l'espace, c'est grand et il y a plusieurs dimensions dans l'espace. Donc, il y a une deuxième dimension qui est la politique et puis une troisième dimension qui est la géographie, c'est-à-dire l'espace politique vu de l'URSS, qui est un sujet qui n'avait vraiment pas été traité jusqu'ici dans l'édition française.
Vous avez fait un ouvrage qui s'appelle « De Spoutnik à la Lune, l'histoire secrète du programme spatial soviétique ». De quoi ça parle en gros ?
Eh bien, en fait, tout le monde sait que les Russes ont été les premiers à envoyer un engin dans l'espace, c'était Spoutnik, qu'ils ont envoyé Gagarine. Ce qu'on sait moins, c'est comment ils ont réussi ces deux premières, alors que c'est un pays qui était retardataire sur l'Amérique, on le pensait en tout cas dans le domaine industriel. Et ce qu'on sait encore moins, c'est s'ils ont essayé d'envoyer des hommes sur la Lune. Et donc, l'ouvrage révèle, en fait, qu'ils ont voulu envoyer des hommes sur la Lune et explique comment ils ont été si efficaces au début avec Spoutnik et Gagarine, l'histoire secrète de Spoutnik, l'histoire secrète de Gagarine et surtout l'histoire secrète d'envoi des hommes sur la Lune, programme qui a échoué, mais de peu.
La question que tout le monde se pose, parce que justement c'est une histoire secrète, comment vous avez réussi à vous documenter pour faire ce livre ?
Alors c'est un travail de 40 ans. En fait, ça fait 40 ans que je m'intéresse au sujet. Il y a eu deux grandes époques. Dans les années 60-70, on avait un certain nombre d'indices, uniquement d'indices. Par exemple, les paramètres des orbites des vaisseaux, la taille des vaisseaux, etc., qui pouvaient laisser penser qu'on nous racontait des histoires et qu'en fait, les vaisseaux spatiaux ou les engins étaient envoyés pour d'autres missions que ce qui était dit. Donc c'est un travail à la Sherlock Holmes. À partir d'indices, on a reconstitué d'hypothétiques programmes. La deuxième grande époque, c'est depuis les années 90, la chute de l'Union soviétique, un certain nombre de contacts qui ont été pris entre les savants, les chercheurs soviétiques et russes maintenant, et le monde occidental, qui ont fait remonter énormément d'informations, un petit peu, beaucoup d'informations fausses d'ailleurs aussi. Donc tout ça trié a permis de reconstituer ce qui s'était passé il y a 40 ans. C'est un petit peu un travail d'archéologue.
Et donc de faire cet ouvrage, je rappelle, de Spoutnik à la Lune, l'histoire secrète du programme spatial soviétique. Si nos auditeurs veulent se procurer ce livre, comment faut-il faire ?
C'est très facile, il est disponible sur Amazon et sur tous les sites, toutes les librairies électroniques. Vous tapez mon nom, Ballan, Spoutnik, et vous avez tout de suite la page d'Amazon qui s'ouvre, sinon de Spoutnik à la Lune. Et c'est un ouvrage qui n'a aucun caractère technique ou scientifique prononcé. Il est pour tout public de 7 à 77 ans.
Et il est à quel prix ?
23 euros.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ballan.
Merci à vous.
Eh bien, on va poursuivre donc notre voyage parmi tous ces auteurs et découvrir d'autres auteurs et d'autres livres. Je suis maintenant avec André Braïc, qui va nous dire quelques mots sur son dernier ouvrage.
Il se trouve qu'en 2012, au moment de la campagne présidentielle, j'ai publié un livre que j'ai intitulé « La science, virgule, une ambition pour la France ». Et l'histoire a démarré la manière suivante. J'avais été invité à dîner un soir par Odile Jacob, qui est une femme charmante. Et en plaisantant à table, je lui dis « Écoutez, je suis débordé en ce moment, j'ai plein de travail. Et du coup, je n'ai pas le temps de me présenter aux élections présidentielles. Mais j'y songe sérieusement pour 2017 ou 2022. Mais en attendant, j'ai un programme. Et mon programme repose sur trois priorités, à l'exclusion de toutes les autres. Mes trois priorités sont la recherche, la culture et l'éducation. Odile me dit « Super André, me faites un bouquin, 60 pages une semaine, on le publie avant les élections. » Alors, j'ai pas mis une semaine, j'ai mis deux mois. J'ai pas fait 60 pages, j'en ai fait 160. Et en gros, j'ai fait un espèce de cri d'amour pour la recherche. Et à l'arrivée, j'ai déjeuné avec François Hollande, à qui j'expliquais que les grandes écoles françaises formaient des gens de qualité, mais que ces gens jamais n'avaient fréquenté le monde de la recherche. Et je citais un certain nombre de grandes écoles, je pense qu'il y a HEC, Sciences Po, l'ENA, etc. Et comme cet homme a un peu d'humour, il m'a dit à la fin du repas, écoutez, les trois écoles que j'ai faites, c'est HEC, Sciences Po et l'ENA. J'espère que je n'ai pas été trop déformé. Alors j'ai dit, écoutez, je vous dirai dans 2-3 ans, ça va être récupérable ou pas. Et donc en fait, je crois vraiment que contrairement à ce qu'on dit, on parle de crise, il y a des problèmes quand il y a toujours eu. La crise est de nature essentiellement financière, parce que certains ont fait des spéculations et les a pas brimées. Mais en gros, nous avons quand même beaucoup de chance de vivre à cette époque-là. Je pense même nos successeurs en auront, j'espère, encore beaucoup plus. Et que surtout, si on réfléchit d'où viennent les progrès, c'est la science. Par exemple, on parle de l'esclavage, qui est quelque chose d'épouvantable. L'esclavage a existé depuis des millénaires. Et comment l'esclavage a été supprimé? Eh ben, c'est quand on a fait la thermodynamique, la machine à vapeur, ou l'électromagnétisme, l'électricité. Et c'est pas la générosité de ceux qui détruisent l'esclavage, c'est qu'enfin, on a trouvé quelque chose qui remplace c'est le travail humain. Et c'est vrai pour tout. Pareil pour la santé, etc. et autres. Et la science ne saurait répondre à toutes les questions. La science, comment dirais-je, il ne faut pas tomber dans le scientisme, bien entendu. Mais en même temps, je crois que si on néglige la science, si on oublie la science, on est mort. Et dans un monde où on voit des gens qui la refusent, parce qu'ils croient que la Terre est polluée à cause de la science, parce qu'ils croient que des opinions religieuses leur font croire que la Terre a été formée il y a 6000 ans, etc. Je vois ce danger d'obscurantisme. Et je crois qu'il y a un devoir, d'une part, de lutter contre ce danger, et d'autre part, de donner l'enthousiasme aux jeunes, parce qu'ils ont plein de raisons d'être enthousiastes. Et si moi j'ai eu le bonheur de faire cette carrière-là, de faire de la science, c'est grâce à mes maîtres qui m'ont passé le virus. Hélas, ils sont maintenant décédés, mais la seule petite chose que je peux faire, c'est passer le virus aux plus jeunes, en espérant qu'eux-mêmes continueront. Bah, c'est ce bâton de relais, en quelque sorte, qu'on se passe les autres. C'est ça qui est une belle aventure. C'est beau de faire un relais, c'est mieux qu'une course individuelle.
Tout à fait. Merci André Bric.
Avec plaisir, merci.
Pierre-François Moriot l'a dit tout à l'heure dans le sommaire de l'émission, durant ces rencontres étaient proposées des mini-conférences et aussi un débat. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de ce débat avec différents intervenants que va nous présenter tout de suite l'animateur de ce débat, Gilles Davidovitch.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Maison de l'Environnement. Moi je suis Gilles Davidovitch, je suis le président de la commission de planétologie à la Société Astronomique de France et je remercie Pierre-François Moriot, la Maison de l'Environnement et les organisateurs de cette journée fantastique de l'avoir organisée, c'est la première édition. Et donc nous allons avoir le privilège de pouvoir discuter, puisqu'on va essayer de faire quelque chose d'interactif et pas des monologues, discuter avec et des invités. Tous plus prestigieux les uns que les autres. Donc honneur aux dames d'abord. Donc je vous présente Laurence Honora, vous êtes la seule représentante des dames parmi cette assemblée aujourd'hui, et vous êtes présidente d'Innovaxium. À côté de vous, le célèbre André Braic, que tout le monde connaît, astrophysicien de réputation mondiale. À côté d'André Braic, Jean-François Pellerin, qui est journaliste scientifique. À sa droite, l'exceptionnel Jean-Luc Chrétien, le premier Français de l'espace, vous pouvez l'applaudir, astronaute qui partage sa vie entre Houston et la Bretagne, comme vous le savez tous, qui a volé 3 fois dans l'espace et qui a eu aussi le privilège de représenter la France aux côtés des Soviétiques puis aux côtés des Américains. Il a volé notamment 2 fois dans la station Mir. Et puis à sa droite, Monsieur Alain Dupas, expert en politique spatiale, en technologie et en stratégie. Et enfin, François Blanc, qui est le président de l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace, l'association française en fait. Mais on va commencer donc, honneur aux dames, on va commencer d'abord par Laurence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous si vous constatez qu'il y a une crise de la communication? Est-ce que c'est le verre à moitié plein ou est-ce que c'est le verre à moitié vide? Est-ce que l'on parle vraiment si peu d'espace et d'exploration? Ou est-ce qu'au contraire, jamais on a eu autant de choses, autant de chances, nous citoyens, du plus jeune au plus senior, on va dire, de se cultiver, de se renseigner?
Merci. Alors, moi, je fais partie de ceux qui, de celles qui ont l'habitude de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, d'une manière générale, je suis toujours assez enthousiaste et je me dis que plutôt que d'essayer de faire le constat, de savoir si la communication va crescendo ou au contraire, ça m'ennuise concernant le sujet de l'espace, je me dis que le point important est de continuer de dire, d'apprendre et de montrer et de, en quelque sorte, cultiver et développer l'enthousiasme au niveau de la science en général et plus particulièrement, puisqu'on le dit aujourd'hui, au niveau de l'espace, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et à commencer peut-être par les tout-petits et par leur montrer, leur inculquer, leur apprendre qu'il suffit de lever la tête vers le ciel pour s'approcher de cette espèce de source complètement inexplorée qui peut être à l'origine d'une nouvelle source d'inspiration. Parce que finalement, peut-être que ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'inspiration, c'est d'enthousiasme, c'est d'ouverture, c'est de se dire que finalement, l'espoir existe. Et si on arrive à redonner de l'espoir aux plus jeunes et aux autres, certainement qu'on se tournera avec beaucoup d'enthousiasme vers l'espace et que les communications qui aujourd'hui, finalement, je pense, sont très nombreuses, notamment des communications en direct, hein, j'écoute régulièrement ISS, concernant l'espace, pourront être écoutées, comprises, transférées, admises et seront source de grande inspiration. Donc, je pense que ce n'est pas dans la quantité de ce qui est diffusé aujourd'hui qu'éventuellement ça peut être considéré comme trop peu, mais c'est surtout dans le regard qu'on peut apporter qui finalement manque peut-être d'enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme et cette espèce d'énergie qu'il me semble important de redonner le plus rapidement possible.
Voilà, effectivement, une belle vision des choses. André, est-ce que l'espace est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 30 ans, 50 ans, à travers la voix d'Albert Ducrot sur Europe 1, par exemple, qui nous manque cruellement? Est-ce que c'est moins populaire? Est-ce qu'on voit moins d'actualités spatiales à la télé, par exemple?
Je ne pense pas que ce soit moins populaire, je dirais même que c'est peut-être plus populaire, parce que ça fait encore rêver les gens, et quand les cinéastes veulent faire un film, ils font par exemple Gravity, dont le scénario est, comment dirais-je, au niveau zéro, mais qui monte l'espace, et les gens sont contents avec un scénario complètement nul, à l'américaine, hein, et ils voient l'espace. Donc ça me paraît très populaire. Alors le fait, vous venez de souligner que dans les médias, à l'école, parmi les hommes politiques et autres, eh bien il y a une grande absence, ça c'est un fait avéré, et pas uniquement en France d'ailleurs. Et je crois que le problème est plus général. Il est que nous sommes dans une société où notre vie de tous les jours est complètement conditionnée par des découvertes scientifiques récentes. Il n'est pas une seule découverte scientifique fondamentale qui n'avait aucune application, qui n'ait une conséquence sur notre vie de tous les jours. Quand vous levez le matin, quand vous prenez votre voiture, quand vous prenez votre téléphone portable, quand vous allez à l'hôpital, quand vous prenez l'avion, etc. Toutes choses que vos grands-parents ne faisaient pas, ni vos parents. Donc notre vie est bercée par la science, et la science est totalement ignorée de tout le monde. Et en plus, on demande aux gens de voter avec des connaissances scientifiques du XVIIe siècle. Alors on s'étonne après que les résultats soient étonnants. Mais prenez l'ensemble des présidents de la République, prenez l'ensemble des députés, prenez l'ensemble des sénateurs, prenez l'ensemble des directeurs de journaux, prenez l'ensemble des directeurs des chaînes de télévision, prenez l'ensemble des directeurs des chaînes de radio, prenez l'ensemble des grands capitaines d'industrie. Aucun n'a fréquenté le monde de la recherche. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc je crois que ce qui serait important, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la culture scientifique. Quand nous allons rue de Valois, on prononce le mot culture, tout le monde pense à l'opéra, à la peinture, à la musique, à la sculpture, on a raison. Mais on oublie la culture scientifique. C'est-à-dire non pas la science en tant que découverte, non pas la science en tant qu'application, mais la science en tant qu'une manière de penser, une manière de raisonner, et une manière finalement d'essayer de comprendre le monde. Autrement dit, il y a une ignorance totale, et peut-être que les scientifiques sont responsables. Et donc d'une certaine manière, je pense que nous avons une personne merveilleuse. Si moi on me demande de naître n'importe quand, il y a 6000 ans et aujourd'hui, je choisis aujourd'hui, évidemment. Et les gens n'apprécient pas ça. Nous avons une chance. Et dans les livres d'histoire, dans 1000 ou 2000 ans, ils diront quelle chance ils avaient au fin du XXe siècle, début du XXIe. C'est le moment où ils commençaient à comprendre ce qu'était l'homme, la biologie. Et c'est le moment où ils mettaient le pied dans l'espace, où l'homme sortait de son berceau. C'est le premier moment. Et l'espace et l'homme, c'est la place de l'homme dans l'univers. C'est des questions fondamentales qu'on se pose depuis longtemps. Et quand on connaîtra mieux l'espace, je suis persuadé que nos idées philosophiques, métaphysiques, sociologiques, même psychologiques, seront très différentes. Donc finalement, moi je suis très content, on a un gros boulot à faire, on n'est pas prêt d'être au chômage, hein, mais allons-y, essayons de communiquer un peu d'enthousiasme. Bon, je parlais pour attendre la prochaine question, mais ça durait pas longtemps.
Alors la question d'après, c'est pour Jean-Luc Pétain, évidemment, parce que justement, l'homme qui va dans l'espace, de nous tous, vous êtes le seul à être allé dans l'espace déjà trois fois, et puis à être sorti de la station spatiale avec Volkov, donc l'un des plus grands, vous étiez les deux plus grands marcheurs quasiment... en EVA, les sorties extravéhiculaires, longue durée, plusieurs heures, quelle impression ça fait? Comment on transmet ces impressions à un large public, mais aussi à ses collègues d'ailleurs?
Alors, la sortie dans l'espace, effectivement, est un grand moment pendant une mission spatiale. On est, alors tout ce vol enfermé dans le volume de la station, donc on est prisonnier de ce volume, on a des hublots, il n'y en a pas beaucoup. Donc on vit petit peu en l'espace confiné. On est là-haut, mais on ne le sent pas beaucoup, à part qu'on flotte. Effectivement, c'est quand même une information importante pour être sûr qu'on est bien dans l'espace. Et je répète, les hublots ne sont pas très nombreux. Et d'un seul coup, on est dehors, dans un scaphandre, qui, grâce à l'apesanteur, se fait oublier très rapidement. Et on a donc l'impression d'être pratiquement en maillot de bain, pour être poli, là-haut en orbite. La vision périphérique, la vision à travers le home du scaphandre est excellente. Et donc, d'un seul coup, on est dehors. Dehors et, en jeu de mots, à l'air libre. Et pendant 6 heures. Alors, le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Et dans cette sortie en particulier, il y a eu pas mal d'imprévus. Donc, on n'a pas vraiment le temps de jouir du spectacle. Mais on en profite quand même. Même le travail se fait dans un environnement fabuleux. Et c'est 6 heures... que 6 heures passées autour de la Terre, donc en 6 heures on en fait 4, donc on a vu pas mal de nuits, pas mal de jours. Et donc c'est vrai que c'est un moment fabuleux, une mission dans la mission.
Est-ce que vous regrettez, donc ça c'est le verre à moitié vide, est-ce que vous regrettez un déficit de communication scientifique, de vulgarisation à travers les médias français ou américains, puisque vous êtes aux avant-postes des deux en étant à Houston et en étant en Bretagne, ou est-ce que, vers à moitié plein, est-ce qu'au contraire, c'est plutôt satisfaisant de voir combien ces dernières décennies, finalement, eh bien, ont été couvertes grâce à l'Internet, grâce à YouTube, grâce... On a parlé de Gravity, 3 millions d'entrées en France. Ok, le scénario est débile, mais c'est beau et ça fait rêver. Et ça fait quelque part la promotion de l'exploration spatiale. Et ou alors Félix Baumgartner, donc on n'est plus tout à fait dans l'espace, on est encore un petit peu juste en dessous. 40 km, c'est bien en dessous même, mais ça fait quand même rêver aussi. Et là, on a des dizaines de millions de spectateurs sur YouTube à travers la planète.
Absolument, il y a un défaut de communication, mais qui est tout à fait normal, pour des tas de raisons. Et la raison principale... c'est que pour avoir une adhésion aussi importante à l'image, à l'information, il faut que l'information soit nouvelle et quasi inattendue. Donc Félix Baumgartner, les images sont superbes, et c'est pas ordinaire de faire ce qu'il a fait. Et donc là, automatiquement, on se précipite vers cette information, on se précipite vers ces images. Là-haut, en ce moment, tout ce qu'on peut nous apporter, c'est de la routine. Et c'est tellement devenu de la routine que l'administration américaine, donc le président Obama, a entériné une décision qui a été extrêmement importante il y a 3 ans, quelques 3 ans, c'était une très grosse modification du programme spatial américain, en disant il n'y a plus de Space Shuttle, donc abandonner la navette américaine, là aussi pour des tas de raisons, et surtout on redonne à la NASA sa mission de recherche et d'exploration, d'ouvreur de portes, et non plus de se cantonner à assurer l'opération de la Station Spatiale Internationale. Donc l'orbite basse va devenir un domaine du privé, c'est-à-dire que la NASA, grâce à ce qu'elle a fait, aura permis à d'autres, et donc à des privés, d'aller en orbite basse, et cette NASA reprend son flambeau d'explorateurs, l'objectif futur, ce sont les astéroïdes, alors c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, les points de Lagrange, et surtout la planète Mars. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un peu normal. On est rentré dans une phase de routine, le moteur a changé, c'est une phase monotone de routine.
Alors Alain Dubas, excusez-moi, je vais vous ranger dans la catégorie des experts en politique et en stratégie, donc un peu plus institutionnel. Est-ce que ce que vient de dire Jean Chrétien, c'est finalement, est-ce que si on considère qu'il y a un petit peu un désengouement quand même pour les sociétés en général, est-ce que c'est pas d'abord de la faute des institutions? Est-ce qu'on n'a pas là un déficit d'abord de nos hommes politiques?
Si vous avez parlé au début du verre à moitié vide ou à moitié plein, pour moi le verre il est plein. Hein. Donc,
même pas à moitié.
Non, même pas à moitié. Si vous voulez, si vous comparez ce qui se fait aujourd'hui dans l'espace à ce qui se faisait il y a 20 ans par exemple, ou 30 ans, c'est incomparable. Et c'est incomparable à cause du progrès technologique. Alors, moi, je ne crois pas que les problèmes de communication soient si importants que ça. Vous n'avez pas eu besoin de communiquer aux jeunes ce qui était possible de faire avec un téléphone portable, puis avec un smartphone, puis avec Internet. Ils l'ont tout à fait découvert. Je dirais qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite en matière scientifique et technique que on utilise un certain nombre de choses sans qu'on ait besoin de vous expliquer à la télévision pourquoi c'est important. Facebook vient de créer un laboratoire qui s'appelle Connectivity Labs. Son but est de permettre l'accès à Internet absolument partout sur la planète en utilisant une combinaison de drones et de satellites. Mais pas 2-3 satellites, des centaines ou des milliers de satellites. Alors, si vous voulez qu'on communique ou qu'on ne communique pas, pour moi, ce n'est pas si important que ça, car les choses se font. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a jamais eu autant de chercheurs, il n'y a jamais eu autant de découvertes, et à budget constant, vous avez une accélération extraordinaire du progrès scientifique et technique. Et pour moi, une des grandes choses qui est bien triste que l'on laisse penser aux jeunes qui vivront moins bien que nous, c'est franchement scandaleux. Les jeunes vivront beaucoup mieux que nous, en particulier grâce au progrès scientifique et technique, et ce n'est pas un problème de communication. Le progrès scientifique et technique, il est sur les rails, il va de l'avant. Tout ce qu'on peut regretter, c'est un certain nombre de manque d'ambition sur certains dossiers de l'Europe, mais ça n'empêche pas le progrès général de l'espace.
D'accord, ça me plaît bien comme discours. Tous aussi, je pense, hein, on est tous très enthousiastes. Mais alors, donc, du coup, François et Jean-François, vous représentez tous les deux les journalistes. Expliquez-moi pourquoi les journalistes ne se font pas plus l'écho de toutes ces bonnes nouvelles.
Alors, moi, je voudrais prendre la défense de la JPAE. Parce que la JPAE, c'est l'association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace. Ce sont des gens triés sur le volet, qui sont des professionnels de la communication aéronautique et du spatial. Donc, pour moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai tous les jours des conférences, j'ai des auditoires très importants. J'étais à Villacoublay hier, j'ai parlé du cœur artificiel avec les ingénieurs qui ont travaillé dessus, les ingénieurs de Hadias Astrium. On a parlé de l'handicap, de la première voiture aménagée pour les handicapés à partir de la Lunar Rover d'Apollo. Pour moi, il y a une certaine presse qui fait pas son travail. Si on pouvait retenir l'arrivée du Soyouz il y a quelques jours, d'habitude il y a une procédure depuis l'année dernière, en 6 heures ils sont sur orbite et ils ont rejoint la station en 6 heures environ, au lieu de 48 heures, ce qu'a connu Jean-Luc Chrétien. Et là, il y a eu un problème au niveau du Soyouz, dans le contrôle d'attitude dès la première heure, donc il a fallu revenir à la procédure ancienne et mettre 2 jours. Et qu'est-ce qu'on a retenu sur BFM? Une ligne tout en bas de l'écran qui nous explique que des cosmonautes russes et américains arrivent dans l'espace avec 48 heures de retard. Donc ça, c'est pas de l'information à JPAE, les gens de l'aéronautique et de l'espace. Moi, je suis issu d'aérospatial et d'Arianespace. Il y aura la parole à notre président. Donc nous, on fait notre travail, mais le problème, c'est qu'on doit se battre face à une pensée unique, par exemple, de gens qui nous disent que depuis 30 ans, on ne fait rien dans l'espace, on tourne autour de la Terre, alors qu'on n'a jamais fait autant de choses. Si vous saviez le nombre de brevets, de technologies qui ont été déposées pour le projet Apollo, pour le projet des stations orbitales, dans le domaine de l'handicap, dans le domaine médical, il y a des choses extraordinaires. Il n'y a jamais eu autant de technologies qui sont transférées grâce à ces grands programmes d'exploration. Donc on a appris à travailler ensemble depuis 3 décennies, et maintenant on sera sur la Lune dans 10 ans avec les Chinois. Ensuite, le grand bond, c'est Mars. Je vous invite à lire le livre « Embarquement pour Mars » de la Mars Society que j'ai ici. On a tordu un peu le cou à toutes les idées reçues, parce que d'un côté, il y a des gens qui manquent d'ambition et qui sont rentrés un peu dans un discours de dépression. C'est pour ça que je dis qu'André Braille, qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale, parce qu'il a un discours qui nous oblige à monter en surenchère et à monter dans l'enthousiasme et la passion. Donc il y a deux types de presse. Il y a une presse qui, j'ai repris ici la phrase qui m'avait scandalisé, 40 milliards de dégâts en 37 secondes. C'était un journaliste de Libération lors de l'explosion du premier vol Ariane 5. Donc ça veut tout dire sur une certaine communication spatiale faite par certains qui veulent vendre des journaux, faire de l'argent, faire du business. Et il y a ceux qui sont des professionnels. La JAPE existe depuis 65 ans.
François Blanc, comment on fait pour parler positivement de toutes ces bonnes nouvelles? Est-ce qu'il faut un drame pour qu'on remette aux 20 heures plus de 30 secondes d'actualité spatiale?
Alors, je ne vais pas dire oui, il faut un drame, parce que ce n'est pas moi qui en décide. Mais si je devais le constater, là, je dirais oui. Ce n'est pas propre à l'espace. Qui parle de la vie des contrôleurs aériens, des pilotes de ligne toute la journée sur les médias? Personne. Mais quand il y a un avion malaisien qui tombe, oui, on en parle, bien sûr. Donc là, le débat se déplace vers autre chose. Qu'est-ce qui intéresse le grand public? Ou que croit-on, quand on est patron de presse, va intéresser le grand public? Le but étant de capter l'intention, et l'attention le plus longtemps possible. Parce qu'entre deux messages d'info ou de documentaire, il y a de la pub. Bon, je ne vais pas faire le procès du système tel qu'il s'oriente aujourd'hui, ça ne sert à rien. Une mise au point rapide, la JPAE regroupe, comme son nom l'indique, des journalistes, pas des patrons de presse. Vous n'avez pas idée à quel point nous, journalistes pris individuellement, et à quel point nous, journalistes regroupés par sensibilité de thématique, nous avons nous-mêmes à bagarrer pour faire des propositions au rédacteur en chef, qu'on soit salarié à temps plein d'une revue, d'une télé, d'une radio, ou qu'on soit comme moi, un pur freelance, ça devient une vraie bagarre. C'est peut-être un peu de notre faute, il y a une façon de susciter l'intérêt que nous avons peut-être manqué ou qu'il nous faut travailler. Oui, mais est-ce que, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'une information aujourd'hui, au sens où nous l'entendons juridiquement parlant, c'est quelque chose qui, hélas, devient une marchandise. Elle est à vendre, l'information, elle n'est pas gratuite. Donc là aussi, il y aurait un long débat à mener sur qu'est-ce que l'information aujourd'hui. Quand des patrons d'agences de communication parlent d'information, ça n'a pas le même sens que pour nous. Vous voyez, encore, là, il faudra encore que nous creusions ensemble, tranquillement, travailler sur les subtilités de langage. Donc voilà, le problème est très compliqué. Les journalistes de la GPE font ce qu'ils peuvent, rassurez-vous. Et une dernière note d'optimisme, je ne crois pas qu'il y ait une raréfaction de l'information spatiale dédiée au plus grand nombre. Je pense qu'il y a une dilution d'information.
Voilà pour un extrait de ce débat fort passionnant qu'on aurait pu écouter en entier. Malheureusement, on n'avait pas suffisamment de temps puisqu'il faut savoir qu'il a quand même duré près d'1h40. On va s'interrompre une deuxième fois pour une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission « À toi les étoiles ».
IDFM, 98FM, toujours plus de proximité pour vous.
De retour ici à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable avec Gilles Davidovitch. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un retour de cette manifestation?
Ben, c'est une très belle initiative. Je pense que c'est important d'avoir sous le même toit réunis autant de passionnés qui témoignent de leur passion au travers d'ouvrages extrêmement bien documentés, très illustrés. Donc on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui Jean-Luc Chrétien, le premier français de l'espace. On a eu tout un ensemble aussi d'autres auteurs extrêmement passionnants, André Braic, Jacques Blamont, des figures de la science, de l'exploration, des dessinateurs aussi qui ont tous fait des best-sellers. Donc voilà, c'est d'une richesse très impressionnante. Et bien finalement, cette culture du papier, cette culture du livre, elle a toujours été très importante dans l'histoire des sciences et des techniques. Elle l'est particulièrement dans l'astronautique et l'aéronautique et dans les sciences de l'astronomie également. Et ça fait bien plaisir de voir que le livre se porte bien quand même et qu'il y a toujours autant de matière, autant de richesse à communiquer, à partager.
Merci beaucoup Gilles Davidovitch.
Merci.
Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission « À toi les étoiles » qui a été enregistrée le 30 mars 2014 ici à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable d'Orly pour cette première rencontre de l'espace et de la plume. Alors Pierre-François Mouriot, un petit mot de conclusion tout d'abord, les retombées, comment ça s'est passé, il y avait du monde?
Alors écoutez, on est plutôt contents, c'est toujours difficile de faire un bilan encore à chaud parce qu'on est encore en train de démonter les stands, le public n'est pas complètement parti. On a eu plus d'une centaine de personnes qui sont venues avec de tout âge, tout horizon, des jeunes, des moins jeunes, des enfants. Les conférences ont eu pas mal de succès, notamment la table ronde finale avec une très belle brochette et 60 personnes qui ont été captivées pendant 1h40 quasiment. Donc on est particulièrement content, donc un succès public a priori. Et puis surtout, l'objectif, on a appelé ça des rencontres. C'était qu'au départ, les auteurs qui se déplacent et qui n'étaient pas sûrs de rencontrer le public, puisque c'était expérimental, comme je vous disais, c'était la première édition, et ben, ils étaient contents de se retrouver ensemble. Ils ont été particulièrement bien accueillis par la Maison de l'Environnement. Ils ont fait ce matin une petite visite de l'Observatoire de Juvisy. Il y a eu un petit buffet très, très sympathique à midi. Et ils ont pu discuter les uns les autres. Donc déjà, c'était des retrouvailles d'auteurs. Donc ça, cet objectif, on l'a atteint. Et les gens ont l'air partants pour une seconde édition. Donc maintenant, à nous de nous retrouver organisateurs, de faire le bilan, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, comment mieux faire ou comment refaire et quand est-ce qu'on fera une seconde édition s'il y en a une. Donc voilà, maintenant, on en est à réfléchir déjà à la suite.
Eh bien, merci Pierre-François Morio, en tout cas, de m'avoir accueilli ici pour l'enregistrement de cette émission À toi les étoiles. Et puis, à bientôt.
Bah, à bientôt.
Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. J'espère qu'elle vous a plu. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, et notamment le journal de Radio France Internationale. À 19h10, ce sera Toff avec le Mag Music. Et puis à 20h, Patrick Molis pour Country et Souvenirs. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de mai. Ce sera le mercredi 21 mai de 18h à 19h pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles qui aura pour thème les 50 ans de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et oui, 50 ans déjà. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.
En Ile-de-France.
En Ile-de-France.
Vous écoutez IDFM
sur le 98 FM.
98 FM.